Bonjour.
Bon, je commencerai avec une petite présentation de la langue bambara, de dire quelques généralités. D'abord, le bambara, c'est une grande langue pour l'Afrique. Elle est parlée par 14 à 15 millions de personnes, surtout au Mali. Mais ça, ce chiffre inclut aussi les locuteurs de Bambara comme la langue seconde, parce qu'au Mali, le Bambara, c'est une lingua franca, donc il y a beaucoup de locuteurs secondaires, dont la langue de mère de Perse et autre que Bambara. Il y a à peu près 4-5 millions de locuteurs natifs de Bambara. Et le Bambara est aussi très présent dans le diaspora africain en France. Je pense que c'est peut-être majoritaire même parmi toutes les langues africaines parlées dans le diaspora africain en France. Il est aussi bien présent dans d'autres pays d'Europe, des États-Unis, de l'Afrique de l'Ouest. Et le Bambara est prochement parenté aux certaines autres langues. Langue ou dialecte, c'est une question un peu politique. Voilà la carte qui vous représente toutes ces variétés proches. Le Bambara ou Bamana, c'est la, dans la langue même, c'est le nom est Bamana. En français, on dit Bambara. Elle est parlée au Mali, mais dans les pays voisins, en Guinée, il y a Maninka ou Malinke. En Côte d'Ivoire, c'est le Djula. Et au Burkina Faso, c'est aussi Djula. Et au Sénégambi, en Guinée-Bissau, c'est Mandinka. Tout ça, ce sont des variétés assez proches, on pourrait dire même du dialecte. Mais la difficulté, le problème est que dans chaque pays, on est en train de développer sa propre norme écrite. Et voilà, donc là, les variétés divergent et deviennent des vraies langues. Tout ensemble, pris tout ensemble, le nombre de locuteurs de tout ça, c'est, on dit mandingue pour tout cet ensemble, peut atteindre entre 40 et 50 millions de locuteurs, y compris les locuteurs de L2. Voilà, donc ils sont, et tout ça, c'est l'Afrique francophone. Donc, leur destination première de migration, c'est la France. La France, l'Espagne, mais surtout la France. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très, très présents en France. Et un aspect qu'on a évoqué pendant la discussion préliminaire. Donc, d'abord, ce sont des pays francophones dans le sens que c'est le français qui est la langue officielle de tous ces pays, sauf Gambie, Guinée-Bissau, mais c'est marginal. Donc, normalement, les locuteurs de Bambara et d'autres variétés mandingues, ils connaissent le français à un certain degré, même avant de venir en France. Mais c'est très souvent le français, une variété locale, surtout en Côte d'Ivoire, c'est une variété qui est assez différente du français standard, qui est beaucoup influencée par les langues locales. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir quelles sont les langues, quelles sont les langues natales, quelle est leur structure et comment elles influencent le français qu'ils parlent. Parce que dans la variété ivoirienne, par exemple, de français, on trouve énormément de traces de l'influence des langues locales. Et l'autre aspect qu'on vient d'évoquer, effectivement, dans ces pays, surtout au Mali, le taux de scolarité est très bas et la qualité de l'enseignement scolaire est très basse aussi. Très souvent, les immigrés de Mali ont un niveau scolaire très bas, ils n'ont pas d'habitude de lire, donc tous ces problèmes qu'on a évoqués, voilà, ça s'applique directement aux locuteurs de Bambara. Bon. Maintenant je présenterai des particularités du Bambara. D'abord, le système vocalique, les voyelles, c'est très simple, c'est symétrique. Il y a 7 voyelles de base et chaque de ces voyelles peut être longue, mais longueur c'est seulement dans la position non finale dans le mot. Et chaque voyelle, il y a un correspondant nasal. Donc, ce qui est différent du français, ou quand même, ce n'est pas symétrique. Il y a moins de voyelles nasales que de moyennes orales. Voilà le système de consonnes. Vous avez tout ça aussi dans l'exemplier qui est normalement disponible. Je ne sais pas si ça a été distribué ou pas. Et quelques difficultés que le système phonologique peut poser. D'abord, c'est la structure de syllabes et structure de mots. En bambara, il n'y a pratiquement pas de syllabes fermées. Toutes les syllabes, c'est consonnes, voyelles. Bon, à la limite, c'est voyelles tout seul, c'est surtout les pronoms. Donc, si vous avez un mot français qui a des syllabes avec consonne à la fin, en bambara, on doit normalement insérer une voyelle ou bien mettre à la fin du mot une voyelle qui n'existe pas en bambara. Voilà quelques exemples des emprunts en français. Brique en français, en bambara, ça devient biriki. Hein, il faut mettre i entre br et i, un autre i à la fin. Général, il n'y a pas de g, donc g est remplacé par z. Et à la fin, on ne peut pas prononcer une consonne, donc on met i. Donc ça devient generali. L'école, ça emprunte avec l'article, et donc ça devient l'acoli ou l'écoli. Donc à la fin, on insère une voyelle. Ça, c'est systématique. C'est les voyelles prothétiques insérées, c'est le plus souvent c'est i, mais ça peut être aussi ou, si toutes les voyelles dans le mot sont antérieures, arrondies, alors on met ou. Par exemple, pomme, on dit pomou en bambara. Maintenant, les consonnes, j'ai déjà mentionné generali, donc c'est systématique, il n'y a pas de je en bambara, il y a je, comme djégué, le poisson, mais peut-être c'est un peu bizarre, mais je français est identifié plutôt avec z et pas avec je. Donc janvier, ça devient janvier. Joue, ça devient zou, ou encore, ça peut se modifier encore, z en bambara quand même est vu aussi comme équivalent de ns, un s prénasalisé, donc finalement on peut prononcer nsung au lieu de jou. Hein. Ensuite, c'est ch français qui pose souvent beaucoup de problèmes. C'est pas que ch n'existe pas en bambara, ch existe, mais son statut est très bizarre. D'abord, c'est semi phonologique, il y a certains mots qui se distinguent, c'est-à-dire la position « s »,« ch », ça existe. Il y a « sous le cadavre » ou bien « sous » avec ton « o », c'est la nuit, et « chou » à ton « o » aussi, qui est le « chou », qui est emprunt en français. Là, c'est phonologique, on ne les confond pas. Mais dans beaucoup de dialectes de bambara, systématiquement, ce dans la position devant voyelle i ou devant ou se chuchote, ça se prononce plutôt comme ch. Donc, au lieu de missi, vache, dans ces dialectes, on dit michi. Au lieu de si, aucun, on dit chi. Et ça, c'est très systématique. Et le bambara standard, il n'est pas suffisamment normalisé. En fait, il y a beaucoup de variétés de bambara standard et chacun parle un peu avec la coloration de son dialecte natal. Donc, même à Bamako, vous pouvez entendre tout à fait tous ces ch. Donc, les locuteurs de bambara, en parlant français, ont tendance de confondre beaucoup ce et ch. Surtout dans la position devant i et ou. Bon, une autre difficulté, c'est qu'en bambara, bon, d'abord c'est r et c'est pas r, c'est r roulé. Et ensuite, bon, mais ça s'identifie, d'accord, c'est pas un très gros problème, mais le problème est que r n'est pas possible dans la position initiale. Donc, c'est que pour la position à l'intérieur du mot. Donc, si on emprunte des mots du français, au français, on doit forcément insérer une voyelle. Donc, radio devient radio, robe devient vorobu ou orobu, Rwanda devient urwanda, etc. Et donc, ça, c'est une ou a ou une voyelle prothétique, donc ça n'a aucun sens, juste c'est pour interdire à R d'apparaître au début du mot. Bon, ensuite, comme vous avez vu dans le tableau, il n'y a pas de voyelles antérieures arrondies en bambara. Et ils sont normalement identifiés avec les voyelles antérieures. Contrairement à l'attente, ils ne sont pas identifiés avec les voyelles arrondies postérieures, pas avec O ou. Ils sont identifiés avec I, E. Et donc, on a français junior, on a zignori. Donc, c'est U identifié avec I. Leur, ça devient leri. Chauffeur. Soferi, donc E devient E. Bon, maintenant la grammaire. Le pluriel. Il y a une seule marque de pluriel, donc c'est très simple. Il n'y a pas de 25 marqueurs de pluriel différents en Bambara. C'est juste une seule marque où, dans l'orthographe officielle, ça s'écrit avec un W, mais en fait, ça se prononce comme une voyelle OU. Mais son comportement est différent du français. D'abord, bon, ce ou se met à la fin du nom. Hein, c'est un suffixe. Moussou, d'accord. Mais si il y a un adjectif ou un participe, donc tous ces attributs, en bambara, leur position est à droite du nom. Et alors, on met la marque de pluriel une seule fois à la fin de tout le groupe nominal. Donc, des bonnes femmes, moussonnement, une bonne femme, et moussonnement, des bonnes femmes. Donc, la marque de pluriel apparaît à la fin du groupe une seule fois. Donc, il n'y a pas d'accord en nombre. Hein. Elle ne réapparaît plus sur mousso, sur les femmes. C'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a certains contextes où en français, on met une forme plurielle et en bambara, systématiquement, on met une forme singulière. Donc, tous les noms avec les nombres apparaissent sous forme singulière. Trois bœufs, c'est Missi Saba. Missi, ou Michi, bœuf n'a pas de marque plurielle ou, il apparaît sous sa forme singulière. Et encore, une autre particularité, c'est que tous les noms de parties de corps apparaissent, donc les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, apparaissent systématiquement en forme de singulier. Ils n'admettent pas la marque de pluriel. Même si le contexte est tout, nettement pluralisant. Voici l'exemple en bas de page. C'est pris d'un texte naturel. Vous voyez, certains se bouchent les oreilles avec leurs mains. En français, c'est tout à fait au pluriel, mais en bambara, bolo, main, est au singulier. Mot à mot, certains se bouchent l'oreille avec leurs mains au singulier. Hein. Donc, un main et un oreille. En fait, ce n'est pas vraiment singulier, c'est plutôt neutre par rapport au pluriel et singulier. Donc, le bolo ne signifie pas une seule main, ça signifie soit une main, soit les deux mains, la paire de mains. La même chose sur les oreilles. Ils peuvent apparaître sous forme de pluriel dans le contexte, par exemple, s'il y a une boucherie, là on coupe des oreilles des pauvres bêtes et on les met en tasse, là on dira toulou, les oreilles. Oui, mais dans ce contexte comme ça sera pluriel. Mais dans le contexte naturel où ces parties de corps sont fonctionnelles font leur travail, ils seront normalement au singulier. Bon, continuons. Il n'y a pas de genre grammatical, ni déclinaison, ni pour les noms, ni pour les pronoms. Ici, des pronoms personnels, il y a un seul pronom personnel, troisième personne singulier, a, qui peut être traduit en français soit par il, soit par elle. Et un seul pronom pluriel, ou, c'est aussi il ou elle. Et voilà dans l'exemple, Aya Jarala, elle le lui a montré. Vous voyez trois fois, trois occurrences de A. Dans la position sujet, tout à gauche, c'est A, il, ou bien c'est elle. Ensuite, A dira ce qui est montré. Donc, c'est peut-être un objet inanimé, mais c'est toujours le même A. Et troisième fois, à la fin, devant la postposition, c'est celui à qui on a montré, c'est toujours le même A. En français, on a des pronoms différents qui se distinguent par le genre et aussi par le cas. Hein. Et en Bambara, c'est toujours la même forme. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Seulement la position qui nous montre quel est son statut syntaxique et quel est son genre, est-ce que c'est animé ou inanimé, on ne sait pas. C'est le contexte seul qui nous permet de le savoir. Bien sûr, on peut exprimer le sexe d'un animal ou de personne, mais pour ça, il y a des procédés lexicaux. Il y a un adjectif qu'est masculin, mousseau féminin. Donc ici, il faut distinguer chien mâle et chienne femelle. On dit boulou qu'est, boulou mousseau. Mais ça, c'est un procédé lexical, ce n'est pas grammatical. Bon. L'article existe en Bambara, mais l'article est tonal hein, et il est beaucoup dégradé. Bon, on le dit souvent que c'est l'article défini qui est cet phénomène tonal, mais en fait, ce n'est pas vraiment défini. Dans certains contextes, il apparaît vraiment comme plus ou moins défini, mais dans beaucoup d'autres contextes, son apparition est automatique. Et comme il n'est pas segmental, c'est juste modification tonale, les locuteurs de Bambara sont souvent inconscients si vous les demandez de formuler en quoi se distinguent deux phrases, l'un avec l'article, l'autre sans. Ils vont sentir que c'est différent, mais bien sûr, ils ne pourront pas du tout formuler en quoi ça consiste. Voilà, je vous donne un exemple. Avec l'article et sans article, ça, voilà, ça c'est le contexte où il distingue nettement le sens, c'est dans le contexte négatif. Vouloutéyan, il n'y a pas de chien ici. Ça c'est indéterminé, il n'y a pas d'article, donc la négation est générique. Il n'y a aucun chien ici. Vouloutéyan. Maintenant, vouloutéyan, le chien en question, donc le chien bien défini n'est pas ici. Donc ici, c'est défini. Donc lorsque vous donnez cette paire de phrases à un locuteur Bambara, il va vous dire oui, tout à fait, d'accord, ça c'est différent, mais normalement, ils sont inconscients dans ça si on les montre pas. Donc je prononce encore une fois pour que vous entendiez la différence tonale. Vouloutéyan. Vouloutéyan. Voilà, ça c'est l'article. Bon, maintenant, un autre aspect intéressant, c'est la construction nominale possessive. Il y a deux choses que je voudrais évoquer. La première chose, c'est qu'en Bambara, il n'y a pas de pronom possessif. C'est toujours le même pronom. Il y a une seule série de pronoms personnels qui remplit toutes les fonctions pensables, toutes les fonctions syntaxique pensable, que ce soit sujet, que ce soit complément d'objet direct ou indirect, et que ce soit aussi possesseur dans un groupe nominal à valeur possessif. Voilà un exemple, un lien d'un volet. J'ai appelé mon enfant. Vous voyez ne à gauche dans la position du sujet, c'est je. Et ensuite, vous voyez dans la troisième position, encore une fois, ne mon enfant. C'est le même ne, ça ne change pas. N'importe quel pronom ne change pas, ça sera le même dans la position du sujet, dans la position de possesseur. C'est une chose. Et deuxième chose, c'est qu'en Bambara, tous les noms, bon, en simplifiant les choses, on peut les subdiviser en deux classes. Une classe, ce sont des noms aliénables et l'autre inaliénables. Inaliénables, ce sont en Bambara, toujours en simplifiant les choses, les parties de corps et aussi les termes de parenté. Donc, ma mère, mon enfant, ma soeur cadette, bon, ils ne sont pas les mêmes qu'en français, les termes, c'est une autre histoire, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Ils sont inaliénables. Donc, dans la construction possessives, ils sont connectés au possesseur sans aucune sans connecteur directement. Donc Moussa Kunkolo, la tête de Moussa, c'est juste Moussa plus tête. Moussa tête. Et le possesseur est à gauche. Mais si s'il s'agit d'un nom aliénable, alors il nous faut forcément un mot spécial K à ton O qui est connecteur, marque possessive. Donc si vous voulez dire l'âne de Moussa, Moussa Kafali. Donc il faut forcément mettre K. Hein. Donc il y a deux classes de noms par rapport à la possession. Maintenant, l'ordre de mots dans le groupe nominal. Si il s'agit de construction attributive, donc nom plus adjectif ou nom plus participe, l'ordre de mots est le même qu'en français pour la plupart d'adjectifs. Donc c'est nom plus adjectif ou bien nom plus participe. Et tout à la fin, il y a un déterminant. Donc un chat roux, Giacomo Abelin. Giacomo, chat, roux, rouge. Hein? Rouge, roux. Sogotto le lin, la viande pourrie, une viande pourrie. Sogo, la viande, to le lin, pourrie. Donc c'est plus ou moins comme en français. Et mais maintenant, la construction génitivale, c'est-à-dire avec un attribut nominal, c'est inverse à ce qu'on a en français. Le nom dépendant est à gauche et le nom principal est à droite. Donc, ici, on a tête de poisson. En français, c'est tête de poisson. Tête est le premier. En bambara, c'est l'inverse. C'est djégé-kun. Kun, la tête, est deuxième. Et djégé, dans la première position. Inverse, c'est inverse en français. Donc, quand j'enseigne ça aux étudiants, ils ont beaucoup de mal. Et je leur dis, commencez à traduire toujours par la fin. Et alors, ça marche très bien. Et ici, il y a aussi djégé-kun. Ici, c'est encore une illustration comment marche l'article. Si djégé, le poisson, est déterminé avec l'article tonal, alors ça devient tête du poisson, un poisson précis. Tandis que s'il n'y a pas d'article sur djégé, alors c'est générique, c'est juste tête de poisson par rapport à toute autre sorte de tête, tête de chien, tête de vache, tête de l'homme, etc. Donc ça se prononce djégé-kun et djégé-kun. C'est le ton qui distingue deux sens. Bon, maintenant, l'ordre de mots de base dans l'énoncé verbal. Le mot est très figé. Il ne bouge pas. Il est absolument fixe. La première position, c'est le sujet. Bon, d'ailleurs, comme en français, donc c'est bien. Ensuite, dans la deuxième position, on a, dans la grande majorité de constructions verbales, on a un mot auxilié, donc qu'on appelle, dans la tradition mandaïsan, marque prédicative. Hein. Donc, c'est un auxilié qui n'est pas verbe. Donc, j'évite de dire verbe auxilié parce que ce n'est pas un verbe, c'est un mot spécial. Ensuite, c'est le COD. Et la position de complément d'objet direct est absolument obligatoire, c'est entre la marque prédicative et le verbe. On ne peut pas absolument la mettre ailleurs. Après le COD, c'est le verbe. Et tout à droite, après le verbe, ce sont tous les circonstants ou compléments d'objet indirect, tout autre argument ou circonstant. Voilà, donc la marque prédicative qui suit le sujet. Elle exprime les valeurs de temps, d'aspect, de mode et aussi de polarité, donc la négation, ce que Anne a évoqué pour le soninké, en bambara c'est la même chose. C'est toujours ce mot auxilié, la marque prédicative, qui exprime à la fois l'aspect et aussi la négation ou l'absence de négation. Je simplifie un peu des choses. Il y a aussi d'autres, parfois dans certaines constructions, il y a aussi des suffixes sur le verbe, mais ça c'est le plus typique. Et maintenant, je vais encore une fois dire que la présence de complément d'objet direct est absolument obligatoire pour un verbe transitif. On ne peut pas dire comme en français, on dit par exemple, qu'est-ce que tu fais? Je mange. On ne peut pas dire ça absolument pas en bambara. Il faut absolument dire ce qu'on mange. Si vous ne voulez pas dire ce que vous mangez, il faut mettre même quelque chose de formel sur la position, dans la position de complément d'objet direct, donc au moins un pronom personnel, troisième personne, mais il faut absolument mettre quelque chose, sinon, si vous enlevez le complément d'objet direct, alors on comprendra que je me mange, c'est-à-dire je suis mangeable. Hein. voilà, donc... ok, voilà, donc le mouton mange de l'herbe, sagab bindoum, le mouton bin est complément d'objet direct. Si on dit sagab doum, alors le mouton se mange, hein, le mouton est mangeable. Bon, et si le COD est exprimé par un pronom, voilà, c'est-à-dire les pronoms, comme les noms ont la même forme dans n'importe quelle position. Moi, en fait, j'en ai déjà parlé, donc il n'y a pas beaucoup de temps, je continue. Maintenant, le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. Vous voyez trois exemples où les sujets sont représentés par des pronoms personnels différents. Première personne, deuxième personne singulier, première personne pluriel. Et en français, je mets en rouge la différence entre les formes verbales. En bambara, c'est toujours la même forme, donc ça ne change pas. Ce qui est très représenté en bambara, c'est l'habilité verbale, ambivalence, c'est-à-dire le même verbe peut apparaître comme transitif ou intransitif sans changer sa forme. En français, on a ça aussi. On peut dire « je suis sorti » ou bien « j'ai sorti le porte-monnaie de poche hein. ». Donc, sortir en français, c'est aussi un verbe labile. Mais en bambara, c'est très, très généralisé. C'est la grande majorité de verbes bambara sont labiles. Ils peuvent être employés soit intransitifs, soit transitifs. Comme « seku bedon sokono ».« Seku entre dans la maison », c'est « don » qui est le verbe « entrer ». Mais c'est que befugulan don akuna. Ici, don, le même verbe, la même forme, mais il est utilisé comme transitif, faire entrer le chapeau, donc mettre le chapeau sur sa tête. Et la majorité de verbes sont comme ça. Et aussi, il y a l'habilité passive. Hein, dans l'exemple précédent, avec le. L'âne qui. Voilà, ici c'est aussi un exemple de l'habilité passive, dont apparaît comme transitif, manger, et il devient passif sans que la passivité soit marquée morphologiquement. Et alors il devient être mangé, être ou être mangeable. Bon, pas de verbe être. Il y a plusieurs copules qui ne sont pas des verbes pour exprimer qui apparaissent dans les contextes différents, dans les phrases, dans les énoncés non-verbaux. Bon, mais je saute parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et aussi, il n'y a pas de verbe avoir. La valeur avoir est exprimée par les énoncés non-verbaux avec les mêmes copules. Mot à mot, Sekou a une vache, Michibe Sekou Bolo. Mot à mot, la vache est entre les mains de Sekou. Sekou a du riz, Malobe Sekou fait, c'est aussi le riz est avec Sekou. Sekou a deux enfants, c'est Denfela Be Sekou là. C'est mot à mot, deux enfants sont à Sekou. Ouais? Donc le verbe avoir n'existe pas. La mise en relief, la stratégie est complètement différente de ce qu'on a en français. La focalisation contrastive est marquée par la particule D qui se met après le groupe focalisé. Et le groupe focalisé ne bouge pas, il reste dans sa place, il n'est pas du tout déplacé. Et voilà un exemple. Jakuma yenine mene sokono. Le chat a attrapé la souris dans la maison. Maintenant, on peut focaliser chaque groupe nominal dans cette phrase et ce que vous voyez en bas. Et vous voyez que la position de groupe nominal ne change pas. Jakuma de yenine mene sokono. C'est le chat qui a attrapé la souris. Ok, mais ça, en français, ça ne bouge pas. Mais si c'est la souris qui est focalisé, Giacomo est nienet de menesse. C'est la souris que le chat a attrapé dans la maison. En français, la souris est déplacée vers la gauche. En bambara, elle reste dans sa place. Jakuma ye ninemene so de kono. C'est dans la maison que le chat a attrapé la souris. La même chose, en français, la maison est déplacée vers la gauche. En français, en bambara, la maison reste dans sa position après le verbe. La question générale, ce n'est pas tellement intéressant. Mais les questions particulières, c'est la même logique qu'avec la focalisation. Il y a des proformes, c'est-à-dire les pronoms et d'autres noms interrogatifs, qui expriment la question particulière, mais leur position est absolument la même que le nom, que le groupe nominal qu'ils remplacent. Donc, si la question porte sur COD, alors ça reste dans la position de COD entre la marque prédicative et le verbe. Voilà la phrase de départ. Moussa yé Adenke Wele. Moussa a appelé son fils. Adenke, le fils, et COD, précède le verbe. Moussa yé John Wele. Qu'est-ce qu'a appelé Moussa? En français, on est obligé de mettre qui à gauche. Et en bambara, ça reste dans sa position devant le verbe. Ça ne quitte pas sa place. La même chose avec n'importe quel autre groupe nominal dans la phrase. Si c'est position de circonstance, Moussa Besonogo de Kunema. Moussa dort dans sa cour. Et avec la question, Moussa Besonogo Min. Où est-ce qu'il dort? Où est-ce que Moussa dort? En bambara, Min reste après le verbe. Bon, comme dans le français parlé. Hein. Voilà, la même chose pour la tribu. Quelle? Oui. Et la dernière chose, c'est la relativisation, mais je ne sais pas si j'ai de temps.
Non,
2 minutes. OK. Mais c'est un sujet un peu plus compliqué. Je ne sais pas si 2 minutes suffit ou pas, mais je commencerai. Bon, donc la stratégie de relativisation est absolument différente par rapport à ce qu'on a en français. On a une stratégie, soi-disant, corrélative. Hein. Le groupe nominal relativisé est marqué dans les deux propositions, à la fois subordonnée et principale. Mais le groupe nominal principal se trouve dans la proposition subordonnée qui est, selon la stratégie prédominante, est déplacée vers la gauche. Voilà, je vous montre plutôt un exemple, c'est plus clair. Je ne connais pas la personne que tu as chassée. En bambara, Iyemogomingen Nteodon. C'est Iyemogomingen, la personne que tu as chassée, Nteodon. Je ne la connais pas. C'est comme ça qu'on dit en bambara. Le groupe relativisé se trouve dans la proposition subordonnée dans sa place normale, c'est dans la position de complément d'objet direct. Et dans la proposition principale, un théodon, on a pronom O, celui-là, qui correspond au groupe nominal relativisé. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on a en français. On n'a pas en bambara, pratiquement, on n'utilise pas la stratégie enchâssée typique de français. Voilà un autre exemple. Nientoradikamalemima Ayeutu. Le jeune homme à qui tu as donné le taureau a été couronné par ce taureau. Mot à mot, le taureau, tu l'as donné à jeune homme lequel? Il l'a corné. Hein? Qu'est-ce qui nous permet de savoir qui a corné qui? Est-ce que c'est jeune homme qui a corné le taureau ou l'inverse? C'est la forme de pronom dans la proposition principale, O, c'est ça qui correspond au groupe relativisé, comme Alain. Donc, par ça, on voit que c'est le jeune homme qui a été corné, et pas l'inverse. Le pronom A correspond à l'autre, à un Torah qui n'est pas relativisé. Voilà encore un exemple encore plus joli, mais va demander pardon à la vieille dont tu as volé l'an. Hein. Ici, c'est le possesseur dans le groupe possessive qui est relativisée. La femme qui, mot à mot, tu as volé l'âne de la femme laquelle va demander pardon à elle. Hein? Et donc, c'est comme ça. Donc, pour traduire, il faut d'abord. On a tous les mots si on essaie de traduire directement de français. On n'arrive jamais à construire la phrase Bambara. Il faut d'abord sortir à un niveau logique et puis reconstruire complètement la phrase et construire par la logique Bambara. Donc, c'est une phrase relative. Normalement, va poser beaucoup de problèmes. Si c'est vraiment le couteau Bambara de souche. Ok, donc je m'arrête là et on passe aux questions. Merci peut-être.